Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Je crois que la sagesse implique souvent la révolte.
L'absurde, comme le doute méthodique, a fait table rase. Il nous laisse dans l'impasse. Mais comme le doute, il peut, en revenant sur lui, orienter une nouvelle recherche. Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri, et il me faut au moins croire à ma protestation. La première et la seule évidence qui me soit ainsi donnée, à l'intérieur de l'expérience absurde, est la révolte. Entre révolte et révolution, pas facile de choisir, mais rien ne se fera sans travail, comme le prouve quotidiennement l'équipe des Nouveaux Chemins, Marianne Chassor, Lucie Tardy, Colomba Grossi et Antoine Ravon, avec Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et oui, je m'associe aussi à cette semaine sur la révolte ou la révolution avec la parution d'un ouvrage de Cécile Voissé-Vesser sur Guy Hockenheim qui est paru aux éditions du Sextant.
À tout à l'heure, 10h51. La révolte, écrit Camus dans L'homme révolté, naît du spectacle de la déraison, devant une condition injuste et incompréhensible. Mais son élan aveugle revendique l'ordre au milieu du chaos et l'unité au cœur même de ce qui fuit et disparaît. Elle crie, elle exige, elle veut que le scandale cesse et que se fixe enfin ce qui jusqu'ici s'écrivait sans trêve sur la mer. Son souci est de transformer. Mais transformer, c'est agir. Et agir, demain, sera tué. Alors qu'elle ne sait pas si le meurtre est légitime. Elle engendre justement les actions qu'on lui demande de légitimer. Il faut donc bien que la révolte tire ses raisons d'elle-même, puisqu'elle ne peut les tirer de rien d'autre. Il faut qu'elle consente à s'examiner pour apprendre à se conduire. Examiner la révolte pour qu'elle apprenne à se conduire, tel est le programme de cette semaine où nous prendrons soin de distinguer la révolte comme élan spontané, instinctif, de la révolution qui procède d'une théorie et d'une organisation. Le point de départ, c'est une semaine qu'organise France Culture autour des émeutes, 10 ans après celle déclenchée le 27 octobre 2005 par la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois. Alors quelle différence entre une émeute et une révolte? Entre une révolte et une révolution? Et quel point commun entre une révolution politique et une révolution scientifique, par exemple? Et si, pour ne pas que la révolution devienne conformiste à son tour, le rire devenait un moyen de fissurer l'ordre établi? C'est en tout cas ce que viendra nous dire demain Pierre Judet de la Combe en vous racontant la révolte des femmes et des grenouilles d'Aristophane. Avant que Soufirou, mercredi, ne vous conte à son tour la passionnante histoire des révolutions scientifiques et que Jean Morel ne vous conduise pas à pas dans l'univers ensanglanté de 93 de Victor Hugo. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine, c'est Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, qui vient vous présenter l'inclassable Jacques Ellul, auteur parmi de très nombreux autres ouvrages d'une trilogie sur la Révolution. Bonjour à vous Frédéric Rognon.
Bonjour Adèle Banneret. Mon œuvre appelle constamment l'individu à la révolution. Il s'agit que ce soit l'individu qui prenne sa décision et qui n'entre pas dans un système interprétatif qui le conduirait automatiquement vers une action révolutionnaire. Parce que pour moi, la révolution, ce n'est pas un changement de régime politique, simplement. Ça, c'était les révolutions du XVIIIe siècle. Ça n'est pas seulement un changement d'organisation économique. Ça, ça a été les révolutions que l'on devait faire au XIXe siècle. La révolution actuelle que suppose notre société est malheureusement beaucoup plus fondamentale. C'est une remise en question d'un certain nombre des données les plus certaines de notre société, par exemple l'évidence qu'il faut que la société croisse au point de vue production économique, consommation, etc. Qu'il est évident qu'on va de progrès en progrès. Or, ce sont ces évidences-là qu'il faut remettre en question et que l'on change à la fois la prise de position que l'on a à l'égard de la technique et l'usage que l'on a de cette technique. Et c'est là que se situe pour moi la révolution. L'on sera bien obligé de faire des changements si fondamentaux qu'on ne les imagine pas, mais personnellement, je préférerais qu'on les prévoie.
Frédéric Rognon, qui est cet auteur qui en appelle à la révolution, qui présente son œuvre comme étant un appel à la révolution, mais celle-ci étant comprise comme étant la mise en question des évidences et comme surtout étant quelque chose qu'il nous faut prévoir.
Cet auteur s'appelle Jacques Ellul. Ce nom dira peut-être peu à beaucoup de nos auditeurs et donc il faut le présenter un petit peu. Jacques Ellul est méconnu en France. Beaucoup plus connu d'ailleurs aux États-Unis ou dans d'autres pays comme la Corée du Sud que dans sa propre patrie. On le sait bien, nul n'est prophète en son pays. Peu connu et cependant, vous à France Culture, vous ouvrez aujourd'hui cette semaine avec lui. Je vous en remercie parce que c'est une manière de le reconnaître et il mérite de l'être. C'est un homme qui a traversé tout le XXe siècle. Il est né en 1912, mort en 1994. Il n'a pas connu le XXIe siècle, mais j'aime à dire que c'est un penseur du XXIe siècle, égaré dans le XXe siècle. C'est un homme qui avait une lucidité prémonitoire et qui voyait ce qui nous arrive aujourd'hui, alors qu'il prêchait dans le désert. Il était peu écouté de son vivant. C'est d'abord un juriste, professeur de droit à l'université de Bordeaux, professeur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et c'est aussi un homme dont le champ de recherche est beaucoup plus large que le droit. Il s'est intéressé au phénomène de la technique, on y reviendra. Il s'est intéressé à la propagande. Il s'est intéressé également à la théologie, puisque une partie de son œuvre est d'ordre théologique et éthique. C'était un chrétien qui écrivait aussi à partir de ses convictions chrétiennes.
Et là, vous présentez déjà à travers ce portrait très rapide les contradictions inhérentes à cet homme qui en font peut-être tout l'intérêt de la pensée. On y trouve à la fois cette pensée de la révolution et donc une certaine forme de marxisme avec une grande prise de distance vis-à-vis de Marx qui il fait jouer presque dos à dos d'un côté le protestantisme et de l'autre la pensée de Marx qui est quand même très singulier.
Plutôt que contradiction, je parlerai de paradoxe. C'est un homme de paradoxe, sa pensée est paradoxale et c'est en cela qu'elle nous stimule. C'est un spécialiste de Marx, il enseignait la pensée de Marx pendant de nombreuses années à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, sans être lui-même marxiste, mais fortement marqué par les idées de Marx. Et il était chrétien, et c'est à partir de sa foi chrétienne qu'il réinterprète Marx en quelque sorte.
Et donc la pensée de la révolution, on l'a entendu en ouverture d'émission, c'était un extrait du Bon Plaisir, l'émission de France Culture de 1985, a ceci de particulier qu'elle se distingue fortement de la révolte quand la révolte est cet élan spontané, instinctif, qui surgit, la révolution, elle, disait-il, doit se prévoir, c'est-à-dire doit être réfléchie, planifiée et surtout organisée, y compris de manière théorique. Frédéric Rognon.
La révolte est viscérale, la révolte est spontanée, elle est une manière de s'insurger contre ce qui est inacceptable, sans préparation, sans organisation, sans parti, sans mouvement, mais d'une façon réellement spontanée. La révolution repose sur deux principes, une théorie et une organisation institutionnelle. Et la révolution, donc, est pensée, réfléchie, théorisée avant d'être mise en œuvre. Et puis, elle repose sur des partis, sur des mouvements organisés, et elle débouche sur une organisation, si elle réussit, si la révolution parvient à s'emparer du pouvoir d'État, eh bien, elle investit l'État qui devient un État révolutionnaire. Donc, révolte et révolution sont deux phénomènes bien différents. Jacques Ellul le montre. Il ne s'agit pas non plus de dire que la révolte se traduit ensuite en révolution, ni que la révolution débouche sur des révoltes. Il s'agit de phénomènes bien, bien distincts qui, d'une certaine manière, sont inverses l'un par rapport à l'autre.
Et il écrit notamment sur la Révolution. Alors, il y a surtout trois livres qu'on trouve autour de la Révolution. Autopsie de la Révolution, de la Révolution en révolte et Changer de Révolution, l'inéluctable prolétariat. En tant que commentateur, notamment aussi de mai 68, auquel il a d'abord participé, les émeutes de mai 68, avant là aussi de prendre ses distances.
C'est effectivement une trilogie, trois livres, un de 69, Autopsie de la Révolution, un de 72, De la Révolution aux révoltes, et un de 82, Changer de Révolution, trois livres qui ont été réédités récemment, que l'on trouve en livre de poche. Une trilogie, dans l'œuvre d'Ellul, il y a en fait trois trilogies. L'œuvre d'Ellul est considérable, hein, 58 livres, plus d'un millier d'articles. Et on peut y voir l'architecture de cette œuvre en deux versants. Un versant sociologique, d'analyse critique de la société technicienne, et un versant théologique et éthique qui s'adresse aux chrétiens, comment vivre en chrétien dans cette société technicienne. Et ces deux versants doivent être compris de manière dialectique, chacun renvoyant à l'autre. Et à l'intérieur de chacun de ces deux versants, il y a une trilogie. Il y a une trilogie technicienne, une trilogie sur la société technicienne. Trois ouvrages fondamentaux, La technique ou l'enjeu du siècle, qui date de 54, Le système technicien, qui date de 77, et Le bluff technologique, qui date de 88. Ça, c'est la trilogie du versant sociologique de son œuvre. Et puis, du côté théologique, également, trois grands livres. Le vouloir et le faire, qui date de 64. Éthique de la liberté, qui date de 73. Et Les combats de la liberté, qui date de 84. Donc, on voit qu'il y a une architecture assez équilibrée entre ces deux versants et une trilogie de chaque côté. Et puis, il y a la trilogie sur la Révolution, qui est en quelque sorte qui, étonnamment, se termine par la dialectique entre les deux premiers versants. C'est-à-dire qu'à la fin de Changer de Révolution, à la fin du troisième livre de la trilogie consacrée à la Révolution, eh bien, il établit ce mouvement dialectique entre sociologie et théologie. On y reviendra sans doute, mais c'est assez frappant de le noter. Et donc, trois livres qui s'interrogent juste après mai 68, en 69, donc pour le premier, sur ce qu'est la révolution, ce que sont les révolutions. Donc, il analyse la révolution américaine, la révolution française, les révolutions du 19e siècle, la révolution de 1917, la révolution chinoise de 49 et la révolution culturelle chinoise, et mai 68. Et il essaye de voir dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut encore parler, penser, espérer une révolution. Dans un contexte où tout le monde ne parlait que de révolution. Et il montre, dès ce premier livre, que plus on en parle, moins on l'a fait. En réalité, c'est cette inflation langagière, cette enflure des mots autour de la révolution qui masque le fait qu'aujourd'hui, plus aucune révolution n'est possible.
Au nom de quoi souhaite-t-il la révolution ?
Alors, il fait subir au concept même de révolution, je dirais une révolution, il révolutionne le concept même de révolution. Il souhaite une révolution qui n'est pas celle dont on parle. Il va parler de la révolution nécessaire. C'est ça le concept qu'il va employer. C'est un concept qu'il emprunte à deux auteurs qui, eux aussi, sont très peu connus, ont été oubliés. Robert Aron et Arnaud Dandieu, deux auteurs personnalistes des années 30, qui avaient écrit en 33 un livre intitulé « La révolution nécessaire ». Et c'était sous la plume de ces deux auteurs l'idée déjà d'une révolution d'un autre ordre que ce que l'on entend par révolution politique. Et Jacques Ellul reprend ce concept et fait subir aux deux termes, révolution et nécessaire, nécessité, une subversion. La révolution n'est plus pour Jacques Ellul la recherche de la prise du pouvoir d'État. Parce que la recherche du pouvoir va forcément trahir les idéaux de la Révolution. Les logiques même de l'État vont s'imposer aux idéaux qui avaient conduit les révolutionnaires à s'engager. Donc la Révolution n'est plus de cet ordre-là. La Révolution à laquelle il aspire, je dirais, c'est la Révolution du quotidien. C'est la révolution du style de vie. C'est une révolution beaucoup plus fondamentale, qui était déjà celle de Aron et d'Andieu dans les années 30, celle à laquelle il aspire, à laquelle qu'il prône, Jacques Ellul, c'est la révolution de sa vie d'abord. Hein. On dit révolution bien ordonnée commence par soi-même. C'est cette révolution-là, la révolution de mon style de vie. Ma libération à l'égard de l'emprise de la propagande sur mon imaginaire, sur mes pensées, sur ma manière de vivre. Et puis nécessaire, là aussi le terme peut prêter à confusion. Qu'est-ce que la nécessité ? C'est le fait de ne pas pouvoir être autrement, c'est ce qu'il ne peut pas ne pas être. Et on trouve dans la pensée de Marx, par exemple, l'idée d'une révolution nécessaire parce que les crises du capitalisme vont conduire nécessairement, selon les lois de l'histoire, selon les déterminations historiques, à cette révolution. Là aussi, Jacques Ellul prend ce terme tout à fait dans un autre sens. La révolution nécessaire, ce n'est pas celle qui obéit aux lois de l'histoire. C'est au contraire, c'est une révolution qui répond à un impératif éthique. C'est la révolution que je me donne l'obligation de faire précisément pour échapper aux déterminations, pour accéder à la liberté. C'est donc la révolution nécessaire, c'est la révolution contre l'histoire, contre la fatalité de l'histoire. C'est une manière de défataliser l'histoire.
Et contre un certain milieu qui est devenu le nouveau milieu naturel de l'homme, qui est un milieu qu'Ellul qualifie de technicisé. Écoutez un extrait du texte de La Révolution Révolte, interprété par le comédien Georges Class.
Théodore, auteur de lettre numéro 612.
Salut, Paul.
Tu nous as encore éblouis aujourd'hui.
Bonne soirée.
À demain.
Un morceau nostalgique. Passer à un autre morceau nostalgique. Lire mes mails.
Mail de Superdeal. Des nouveautés à prix étonnant pour...
Ça, c'est...
Mail de Amy. Salut Théodore, Louman invite des amis à la campagne ce week-end. Bise, Amy.
Répondre plus tard.
Pas d'autre mail.
Suivant.
La fusion sino-indienne sera validée par l'autorité internationale.
Suivant.
Qui êtes-vous? Qui pourriez-vous être? Element Software est fier de vous présenter le premier système d'exploitation doté d'intelligence artificielle, OS-1.
Dans le malaise éprouvé par les hommes au milieu de la société technicienne, il y a comme une palpitation. L'homme, essoufflé par ce rythme, cherche un autre souffle. Dans l'excès de confort et de travail, naît une sorte de vague protestation. Le robot se soulève et ne fait pas exactement le geste qu'on attendait de lui. Une sourde peur, une angoisse vague l'habite. Il cherche autre chose. Sans aucune des raisons qu'il avait autrefois pour se révolter, il est de nouveau prêt à la révolte. La société technicienne est le début d'une ère. Le milieu technicien a remplacé le milieu naturel. La culture a changé de signe. Alors, l'homme ne sait plus quelle révolution faire. La révolte est tout ce que l'homme peut entreprendre. Car sa révolution, s'il essayait de l'amorcer, serait une révolution sans projet. L'homme éprouve un malaise qu'il ne sait définir. Il nomme absurdement des ennemis qui n'en sont plus. Il clame des mots « impérialisme »,« anarchie », »,« décolonisation ». Mais derrière tant d'images factices ou périmées, c'est son être même qui proteste contre un état de choses qu'il ne sait pas nommer, qui lui est profondément étranger. Il se trouve pris dans la contradiction terrible de devoir faire sauter cette société qui l'enserre, mais qui le séduit, le détermine, le corrompt. Il la veut, il s'en fait complice. Il veut consommer et jouir. Mais tout soudain, le même aperçoit dans le brouillard le vide et l'absurde. Cheval ombrageux, il réagit par instinct. Et, à la simple vue du nombre qui se développe sur le sol devant lui, il ne tolère pas le mort de la selle. Il fait un écart en voulant éviter d'imaginaires obstacles. C'est l'implacabilité du système qui le terrifie. Il se rapproche d'autant plus de la révolte que cette société lui paraît impossible à révolutionner.
Ce qu'on entend dans ce texte d'Éric Rognon, c'est que la révolte est un pis-aller pour l'homme. C'est parce que la révolution ne lui est pas possible, parce qu'elle est innommable, parce qu'il n'a pas les moyens de la mener, que finalement il se réfugie dans la révolte.
Tout à fait. La révolution n'est plus possible aujourd'hui. L'ère des révolutions est close, dit Jacques Ellul, à une période dans le début des années 70 où on espérait des révolutions. Encore une fois, il était à contre-courant lorsqu'il affirme cela. Il n'y a donc plus que des révoltes possibles. Mais les révoltes n'aboutissent jamais. Elles sont destinées à échouer de toute façon, parce qu'elles sont l'effet d'un désespoir. Elles ne sont pas organisées, comme on le disait tout à l'heure, et donc elles sont forcément conduites à leur propre ruine. Et la révolution elle-même est impossible parce que nous sommes dans une société technicienne, une société close, où toute contestation va être récupérée par le système technicien. Et ça, Jacques Ellul le montre, j'ai pas le temps de l'indiquer de manière précise, mais il le montre tout au long de ces trois livres, à quel point le système technicien est un système qui a une capacité de digestion. Il est capable de phagocyter toute contestation interne. Et il a même besoin de cette contestation pour que les hommes respirent, pour que les hommes puissent trouver une certaine détente, de manière à se reproduire en tant que système.
Alors comment qualifie-t-il ce système technicien? On l'a entendu hein, dans le texte, il parle de société technicienne et dans laquelle l'homme essoufflé cherche un autre rythme, cherche un autre souffle. On entendait juste avant un extrait du film Her de Spike Jonze où l'homme va tomber amoureux d'un système d'exploitation informatique qui laisse entendre qu'effectivement les relations sont complètement dénaturées d'homme à homme. Mais puisque vous avez dit que chez Ellul, de toute façon, la vraie révolution était intérieure, peu importe le milieu dans lequel il vit.
La vraie révolution est intérieure, mais elle débouche sur le style de vie. Elle ne reste pas à l'intérieur. Alors, effectivement, il faut revenir sur ce concept de société technicienne et de technique. Il y a beaucoup de malentendus à ce sujet à propos d'Ellul. Qu'est-ce que Ellul entend par technique? Il fait la distinction entre les techniques et la technique. Les techniques, ce sont tous les outils que l'homme a depuis toujours, depuis la nuit des temps, conçus pour pouvoir s'émanciper quelque peu à l'égard du milieu naturel. Ça, ce sont les techniques. L'homme a toujours eu des techniques. Mais la technique, c'est autre chose. La technique et l'entrée dans la société technicienne, cela ne se réduit pas aux techniques au pluriel. Cela ne se réduit pas aux machines, cela ne se réduit pas aux outils. Alors, il définit la technique de la manière suivante. Il dit que la technique, c'est la recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. La recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace. Et chaque mot compte dans cette définition. On entend bien que derrière le mot recherche, il n'y a pas que des outils, il n'y a pas que des éléments matériels, il y a aussi des éléments immatériels, des éléments de valeur, de représentation, de croyance. C'est la recherche, donc, de la méthode absolument la plus efficace. C'est donc l'absolutisation de l'efficacité. C'est cela qui qualifie la société technicienne, c'est la recherche de l'efficacité absolue, c'est-à-dire au détriment de toute autre considération. L'efficacité est la valeur suprême sur l'autel de laquelle sont sacrifiées toutes les autres valeurs et toutes les autres finalités. La société technicienne, c'est une société de l'efficacité comme un dieu jaloux, en quelque sorte, un monothéisme de l'efficacité. Et donc, toutes les autres considérations passent à la trappe. de manière à ce que cette société soit une société de moyens dans laquelle il n'y a plus de finalité. C'est pourquoi on entendait tout à l'heure, Jacques Ellul disait que la révolution n'avait pas de projet parce que il n'y a plus de finalité, ni politique, ni humaniste, ni spirituelle. C'est une société qui vit par les moyens. Les moyens ont pris la place des finalités.
On pourrait dire que la société technicienne, telle qu'il la nomme, est au service du bien-être de l'homme.
C'est le discours que l'on tiendra, mais en réalité, c'est une société qui s'engendre elle-même parce qu'elle ne repose que sur la recherche de l'efficacité. Et donc, le bien-être de l'homme est lui-même sacrifié sur l'autel de l'efficacité. Pour le dire autrement, Jacques Ellul mentionne une loi, la loi de Gabor. Gabor était un physicien hongrois qui avait énoncé cette loi. Tout ce qui peut être techniquement réalisé le sera nécessairement. Tout ce qui peut être techniquement réalisé le sera nécessairement. Eh bien, c'est la loi de notre société technicienne. Tout ce que l'on peut faire, on le fait parce qu'on peut le faire, sans autre considération. Et donc, le bien-être de l'homme, ça va être un discours de propagande qui va venir a posteriori pour masquer le fait que, en fait, on a fait ce qu'on a fait parce qu'on peut le faire uniquement pour cela. Eh bien, on va voir que la révolution, la vraie révolution, la révolution authentique que Jacques Ellul prône, c'est une révolution qui cherchera à profaner la loi de Gabor, c'est-à-dire à refuser ce diktat de l'efficacité comme valeur absolue, à refuser de faire tout ce qu'on peut faire simplement parce qu'on peut le faire.
Mais Jacques Ellul va même encore plus loin, parce que ce n'est pas simplement le milieu technicien qu'il dénonce, ce n'est pas simplement la recherche de l'efficacité, c'est la notion même de progrès. Il dit même que une des lacunes de Marx, c'est d'avoir cru au progrès. Donc c'est là où on voit qu'il va quand même très loin dans sa contestation de la société dans laquelle il vit.
Le progrès est une illusion. Le progrès réel est une illusion. Il y a un progrès des techniques, mais le progrès de l'homme est toujours le même depuis la nuit des temps, dans son intérieur. Et donc le progrès doit être considéré comme un mythe. On le dit aujourd'hui, quand Jacques Ellul le disait au début des Trente Glorieuses, dans les années 40, 50, il était totalement inaudible. Aujourd'hui, on a déconstruit le mythe du progrès, en grande partie, pas tout à fait, mais en grande partie. Et donc, il le disait bien avant tout le monde. Dans l'extrait qu'on a entendu, il dit aussi que la technique, c'est un milieu, c'est le nouveau milieu de l'homme, c'est-à-dire que nous sommes immergés dans la technique et nous ne pouvons pas prendre de recul par rapport à nous-mêmes parce que nous sommes comme un poisson dans son bocal. Nous avons changé de milieu. Nous ne sommes plus des hommes vivant dans un milieu naturel avec des techniques qui nous permettaient de nous émanciper quelque peu à l'égard de ce milieu. Nous sommes maintenant immergés dans un nouveau milieu, le milieu technicien, qui est notre milieu à nous d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que la révolution n'est plus possible, parce que nous n'avons plus de recul pour nous appuyer sur une force qui nous permettrait de prendre de la distance à l'égard de nous-mêmes. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised.
There will be no pictures of pigs.
The revolution will not be televised. C'est Jill Scott-Heron qui le chante sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h30. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée aux révolutions, révoltes, à l'occasion des 10 ans des émeutes survenues à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005, que commémore toute cette semaine France Culture. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, pour parler de Jacques Ellul. Frédéric Rognon, qui a notamment écrit « Jacques Ellul, une pensée » en dialogue qu'on trouve aux éditions Labor et Fides.
Eh bien, ma vie a été très complexe, dans la mesure où j'ai toujours été à la recherche d'une signification de ce que je vivais, d'une part, et d'autre part, des possibilités qui s'ouvrait ou non d'une intervention dans le monde, dans la politique, dans le social, etc. J'ai participé au mouvement de 1934 contre le fascisme, j'ai participé au mouvement de 1936, bien entendu, et après j'ai été porté tout, je dirais spontanément, par des circonstances dans la résistance. Mais j'ai toujours été attiré par la nécessité de transformer le mouvement de notre société, compte tenu en même temps et parallèlement du fait que, dans la mesure où je cherchais un sens à ma vie, je ne le trouvais pas dans l'action, et je l'ai trouvé progressivement dans la découverte de la foi chrétienne. Ce qui explique la dualité, en somme, des ouvrages que j'ai écrits. D'un côté, il y a des ouvrages d'ordre de recherche, je dis théologique entre guillemets, parce que c'est plutôt biblique, je ne suis pas un théologien de métier, et d'autre part, l'analyse du monde dans lequel nous vivons, au fond, à partir de la grande question que je m'étais posée à la veille de la guerre, si Marx était actuellement dans notre monde, est-ce qu'il centrerait toute sa réflexion sur le capital comme il l'a fait, ou bien est-ce qu'il ne trouverait pas un autre centre au développement de notre société? Et ce centre, je pensais l'avoir trouvé dans le phénomène de la technique.
Alors, l'air de rien, dans cette archive, c'était en 1980 hein, que parlait Jacques Ellul dans l'émission Agora, eh bien, nous livre un élément qu'on ne peut pas laisser de côté, même quand on présente la pensée de Jacques Ellul sur la Révolution. Frédéric Rognon, c'est celui de sa foi chrétienne. Il dit quand même bien que c'est finalement dans sa foi qu'il trouve, finalement, le remède à l'impossibilité de l'action qu'il est obligé de constater.
Il le dit notamment à la fin du troisième livre de la trilogie consacrée à la Révolution, qui s'intitule « Changer de Révolution ». Il indique que c'est sa foi chrétienne qui lui a permis d'abord d'avoir une analyse de la société aussi incisive, parce que il a une espérance en tant que chrétien qui va au-delà de cette société, au-delà de ce monde, et c'est cela qui lui a donné les forces d'aller faire ses recherches jusqu'au bout. Et il explique que sa foi chrétienne, c'est cela qui lui donne les ressources pour considérer une révolution encore possible, ce qu'il appelle la révolution nécessaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, en tant que chrétien, il peut encore tabler sur une révolution possible ? Eh bien, c'est parce que, en tant que croyant, il peut s'appuyer sur une altérité. On disait tout à l'heure que le milieu technicien est le nouveau milieu de l'homme, et que l'homme est immergé dans ce milieu clos dans lequel il est totalement dépossédé de lui-même. Il est aliéné par le système technicien dans lequel il est immergé. Et Jacques Ellul joue sur cette tension entre aliénation et altérité. Pour sortir de l'aliénation, il faut une altérité. Et cette altérité, il la trouve dans le Dieu de Jésus-Christ, dans le Dieu des chrétiens, parce que c'est un Dieu qui est extérieur au monde. Il est le tout autre, donc il est à l'extérieur du système technicien, et en même temps, il s'est incarné en Jésus-Christ, et il a rejoint les hommes dans leur quotidien, dans leur réalité. Et c'est ce mouvement dialectique entre le tout autre et l'incarnation qui fait que Jacques Ellul trouve là une issue. Il a besoin d'une altérité pour sortir de l'aliénation. Altérité et aliénation sont deux termes de même étymologie. C'est l'autre, hein, c'est du latin alius. Et donc l'aliénation, c'est le fait d'être dépossédé de soi-même par un autre. Et l'altérité, c'est au contraire la présence de l'autre qui me permet de revenir à moi-même, qui me permet de prendre du champ par rapport à mon milieu et de me retrouver moi-même. Et donc il s'appuie sur cette altérité divine, qui est le Dieu auquel il croit, pour pouvoir retrouver de l'espérance et l'incarner. Il ne s'agit pas d'une espérance désincarnée, il s'agit d'une espérance dans les changements réels du style de vie. Encore une fois, pas seulement d'une conversion intérieure, mais d'un style de vie, d'un mode de vie, un changement de consommation, un changement d'habiter, un changement de relation avec les autres, un changement de vie qui est possible si on s'appuie sur cette altérité.
Mais du coup, là, on est plus dans le cadre d'un raisonnement théologique que dans celui d'une foi.
Alors, il le dit, je crois. On n'est pas obligé de le suivre. Hein. Il témoigne de sa foi. Et c'était assez courageux à l'époque, on s'en souvient, être un intellectuel et confesser sa foi chrétienne, c'était quelque peu rédhibitoire. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, encore que, mais et ça explique peut-être pourquoi il a été mieux reçu aux États-Unis.
Il était protestant,
et bon, aux États-Unis, il y a pas de problème, il vaut même mieux être anti-marxiste ou non-marxiste et chrétien quand on est un intellectuel. Mais en France, c'était, à l'époque des années 50 et 60, c'était particulièrement dangereux de confesser sa foi chrétienne. Il pouvait être ostracisé comme il l'a été. Eh bien, il dit effectivement, je crois, voilà, je témoigne de ma foi, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais voilà en quoi je crois. Et c'est cela qui me donne les ressources pour imaginer une révolution qui soit vraiment une révolution authentique et qui puisse avoir un véritable impact, les autres révolutions étant toutes vouées à l'échec.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, la volonté de changer sa vie quotidienne, dites-vous. Vous dites qu'il ne s'agit pas simplement d'une conversion intérieure, ni d'une révolution à l'échelle collective, on l'a vu, mais d'un changement de la vie quotidienne. Ça passe par quoi ?
Alors, ça passe d'abord par une conversion, par un changement intérieur, mais ce changement intérieur doit déboucher ensuite sur un changement de vie. Et si la révolution commence par l'individu, par le sujet, elle propulse ensuite le sujet, le conduit à s'associer avec d'autres personnes et à constituer des petits groupes, des petites communautés. Et ça, c'est tout à fait dans la filiation du personnalisme des années 30.
Alors, le personnalisme, juste deux mots, c'est le courant, disons, philosophique d'Emmanuel Mounier.
Voilà, d'Emmanuel
fondateur
Mounier.
Fondateur de la revue Esprit.
Et de quelques autres. Bon, Jacques Ellul a été compagnon d'Emmanuel Mounier pendant quelques années, puis il a rompu en 37 avec Emmanuel Mounier pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Mais c'était effectivement un mouvement qui cherchait une troisième voie entre l'individualisme, ce que disait Emmanuel Mounier, entre l'individualisme de l'Ouest, donc société individualiste, capitaliste, et puis la société totalitaire de l'Est, avec les deux versants, les deux versions staliniennes et nazies, où l'individu est écrasé par la masse, par le peuple, par la classe. Et il imaginait une troisième voie qui serait une révolution communautaire, composé de personnes, les personnes étant des sujets en relation les uns avec les autres au sein de petits groupes d'interconnaissance où chacun se connaît. Et Jacques Ellul s'inscrit tout à fait dans cette filiation, ce personnalisme des années 30, il l'assume jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il ne croit pas à la prise du pouvoir par les prises du pouvoir d'État, par la révolution, par le grand soir. Il ne croit pas non plus à la force d'un individu tout seul. Il pense que des petits groupes peuvent avoir un véritable impact sur leur vie lorsqu'ils se prennent en charge, lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils rentrent dans des actions de résistance et de réflexion et de résistance. Et c'est cela qu'il imagine comme étant la seule issue. Et alors on pourrait dire que le mot-clé de cette issue, c'est un concept que Jacques Ellul a forgé, c'est le concept de non-puissance. Le concept de non-puissance, c'est cela qui va être la feuille de route de ces petites
et
communautés.
Non, pas non-violence.
Et pas de non-violence. Hein. Il était non-violent, mais il considérait que la non-violence ne suffit pas. Il faut aller au-delà de la non-violence pour véritablement la non-puissance. Alors qu'est-ce que c'est que la non-puissance ? Jacques Ellul joue sur une dialectique à trois termes, la puissance, l'impuissance et la non-puissance. La puissance, c'est la capacité de faire, la possibilité d'agir. L'impuissance, c'est l'impossibilité, l'incapacité à agir. Et la non-puissance, ce n'est pas l'impuissance. La non-puissance, c'est la possibilité de faire et le choix assumé de ne pas faire. Et la non-puissance, c'est donc la voie du salut, en quelque sorte. Hein. Si les petites communautés, les petits groupes choisissent de renoncer à un certain nombre de possibilités qui leur sont proposées, eh bien, elles peuvent entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui une société de sobriété, une société de convivialité, une société de lenteur, et tous les problèmes écologiques, vous voyez, qui sont là à l'arrière-plan, peuvent être réglés par une éthique de la non-puissance.
Et de la contemplation.
Et de la contemplation.
Le plus haut point de rupture envers la société technicienne, l'attitude vraiment révolutionnaire, serait l'attitude de contemplation, au lieu de l'agitation frénétique. La contemplation comble le vide de notre société de solitaire. L'art de la contemplation produit des objets, mais les considère comme des signes et non comme des choses. Des signes qui sont des points de départ vers la découverte d'une autre réalité. J'écris vers la découverte, dit Octavio Paz, parce que la contemplation est l'art d'une autre découverte que celle fournie par les sciences et les techniques. La contemplation restitue à l'homme sa dimension en épaisseur que la technique lui enlève, à l'objet sa réalité signifiante, à l'œuvre sa fonction de présence. La contemplation est la clé de la personnalité pour l'homme qui se veut aujourd'hui vivant. Et c'est à partir de l'attitude profonde de contemplation que l'action peut redevenir signifiante et guidée autrement que par les appareils et les objets. C'est dans cette attitude que l'homme peut se retrouver lui-même aujourd'hui. Si vous voulez être véritablement révolutionnaire dans cette société, je ne prétends découvrir ici ni une valeur permanente ni une vérité éternelle, soyez des contemplatifs. Alors, de là, sortira la puissance de l'individu pour ébranler le système.
Si vous voulez être véritablement révolutionnaire dans cette société, soyez des contemplatifs. On a ici l'exemple de la révolution, du terme de révolution engendré par Jacques Ellul, Frédéric Rognon.
Et oui, parce que la contemplation, c'est précisément prendre le contre-pied, aller à contre-courant par rapport à toutes les tendances de la société technicienne qui nous exhorte à l'activisme, qui nous exhorte à courir, à aller accélérer notre rythme de vie. La contemplation, c'est précisément faire le contraire. La contemplation, c'est ralentir, c'est reprendre du temps, reprendre du champ, reprendre la distance par rapport à soi et à sa propre vie. Il y a un terme que je n'aime pas trop, mais qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Donc c'est ne pas s'arc-bouter aux fruits de son action. Et par la contemplation, alors agir, mais agir de manière joyeuse, de manière libre, de manière décontractée. Il y a également là une dialectique à trois termes que Jacques Ellul convoque, c'est la dialectique entre engagement, désengagement et dégagement. Mmh. Donc l'engagement, c'est le fait d'être présent au monde. Le désengagement, c'est le fait d'être absent, de ne pas être présent au monde. Mais ce que Jacques Ellul propose, c'est le dégagement, c'est-à-dire, ou l'engagement dégagé, c'est-à-dire pas être dans l'activisme, dans l'action pour l'action, pas non plus être en retrait totalement, mais grâce à la contemplation, être engagé tout en étant au préalable dégagé.
Alors quel lien avec le spectateur engagé de Debord, parce qu'il le lit, hein, justement,
oui,
il est en dialogue.
Ils sont très proches, hein, Guy Debord et l'international situationniste. Hein, Jacques Ellul a été très, très proche de cette mouvance-là. Effectivement, il rejoint tout à fait Guy Debord dans cette société du spectacle. Mais il s'agit non pas de rester spectateur, non pas de consommer ces signes et ces images que la société technicienne nous donne à l'envi. Il s'agit de contempler toutes les merveilles du monde pour pouvoir ensuite s'engager pleinement dans la société technicienne, mais à contre-courant, de manière non conformiste et contre, non seulement contre le conformisme, mais aussi contre tous les conformismes de l'anticonformisme. Parce que être révolutionnaire, c'est être anticonformiste. Mmh. Mais si on est révolutionnaire comme tout le monde, c'est une forme de conformisme de l'anticonformisme. Eh bien, ce que Jacques Ellul propose, c'est d'être à contre-courant, d'être dans cette société, au cœur de cette société, mais en ayant suffisamment changé son imaginaire et son mode de vie par le biais de petits groupes et de petites communautés de résistance, qu'alors réellement le système technicien peut être subverti.
Il y a vraiment l'idée de résistance chez Ellul. Il y a cette phrase qui d'ailleurs a donné le titre à l'émission, à cette émission, « Exister, c'est résister ».
Tout à fait. La résistance, c'est ce qui fait qu'un homme reste vivant, ce qui fait qu'exister, cela ne peut pas se concevoir dans la soumission, mais au contraire dans la résistance à toute l'emprise de d'une société technicienne qui nous conditionne et qui nous amène à faire des choix que l'on a l'impression de faire librement, mais qu'en réalité, des choix qui sont totalement déterminés par ce qu'il appelle la propagande horizontale, oui. Hein, pas seulement la propagande politique, mais la propagande horizontale, c'est-à-dire la conformisation de nos modes de vie à des standards qui sont dessinés par d'autres. Et dans lesquels nous plongeons sans discernement.
On entend à vous écouter quand même cette grande critique à l'égard non seulement du progrès, mais on dirait de toute forme de modernité chez Jacques Ellul. Est-ce que ce serait un contresens que de le présenter comme un penseur qui serait, on dirait aujourd'hui, complètement réactionnaire en fait?
Alors ça a été un stéréotype qu'on lui a collé. En réalité, c'est totalement fautif hein, comme étiquette. Je dirais il est inclassable. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est ni réactionnaire ni progressiste. Il se situe ailleurs. Ce qu'il dit au sujet de la technique, notamment, permet de chasser ce stéréotype. Il nous dit « la technique n'est ni positive, ni négative, ni neutre ». C'est-à-dire elle n'est pas positive, donc il ne s'agit pas d'être technophile. Elle n'est pas négative, il ne s'agit pas d'être technophobe. Elle n'est pas neutre, il ne s'agit pas de croire que l'on peut, avec la technique, nous orienter positivement ou négativement selon une conscience morale. Il nous dit « elle n'est ni positive, ni négative, ni neutre, elle est ambivalente ». C'est-à-dire que la technique nous conduit, conduit à des résultats qui sont toujours à la fois positifs et négatifs. Et donc on voit que là, il est absurde de dire que c'est un réactionnaire qui a voulu revenir à la bougie, qui a voulu revenir à l'âge des cavernes. C'est un homme qui nous invite à vivre pleinement dans cette société-là, mais autrement. Et donc, il n'est ni progressiste, ni réactionnaire, il est inclassable, il est ailleurs.
La question m'a été posée après par certains étudiants qui m'ont demandé pourquoi je les avais lâchés en cours de route. Et je les ai lâchés en cours de route quand j'ai pensé qu'ils faisaient fausse route. C'est-à-dire que j'ai analysé le phénomène d'après un certain nombre de critères que, par exemple, Lénine donnait pour l'analyse des révolutions. Et je me suis rendu compte que on pouvait faire une révolution sectorielle universitaire, mais que ça pouvait pas déboucher sur une révolution globale. Et à partir du moment où les étudiants ont espéré renverser le général de Gaulle, etc., etc., alors là, c'était raté, de toute façon. Pour moi, je ne porte pas de jugement philosophique. L'expérience des révolutions jusqu'à présent montre qu'on aboutit à un ordre nouveau qui, ou bien reproduit l'ancien, ou bien est plus rigide que l'ancien. Donc, ça ne me paraissait pas la bonne méthode. Par contre, alors, on aurait réussi à obtenir une liberté entière, une autonomie entière des universités, comme... je dirais, secteur de pensée libre, d'échange, de pensée critique, etc. Là, je suis sûr qu'il y avait un levier pour modifier le développement de notre société.
Il y en a marre des évasions de frimes, des grands espaces organisés, des vendeurs d'illusions subtiles qui font l'oubli à bon marché. Qu'est-ce qui reste à nos gens des villes avec nos corps atrophiés, nos grosses têtes sur nos coups graciles et nos pieds qui savent plus marcher? Ben, nous on a sous les pavés la plage. Faudrait seulement enlever les pavés.
Un grand merci à vous, Frédéric Rognon, d'être venu nous parler de Jacques Ellul aujourd'hui.
Merci à vous.
C'était un plaisir de vous écouter. Alors, je renvoie à votre livre Jacques Ellul, une pensée en dialogue. Vous avez également écrit Génération, au pluriel, Ellul, le 60 héritiers de la pensée de Jacques Ellul. Et puis, alors, de Jacques Ellul, on peut lire énormément de livres. Viennent de paraître, effectivement, en poche, la trilogie sur la Révolution, hein, Autopsie de la Révolution, De la Révolution aux révoltes, Échanger de Révolution, l'inéluctable prolétariat. Vous trouverez toute cette bibliographie en ligne sur le site des Nouveaux Chemins.
Sous les pavés, la plage. Faudrait seulement enlever les pavés.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et François Béranger qui veut enlever les pavés pour trouver la plage. Il est 10h51, encore 2 minutes, papillon, avant la Révolution. Il est l'heure de retrouver Géraldine Vosna-Savoie.
Comment devient-on homosexuel? Ça, je pourrais certainement pas y répondre. Et il y a « Comment devient-on militant de l'homosexualité ?» qui est une chose un peu différente. Moi, ça a commencé de manière assez curieuse. C'est le gauchisme qui m'a conduit à penser qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, construire une affirmation publique de l'homosexualité.
Quelques mois après avoir donné cet entretien, Guy Hockenheim mourait du sida à 42 ans, c'était en août 1988. Peu médiatisé aujourd'hui, ce philosophe, militant, journaliste avait pourtant fait de son désir intime un refus de l'ordre établi et des normes. Une révolte, littéralement, tel le titre de cet essai de Cécile Voissé-Wesser qui retrace son parcours et qui est paru aux éditions du Sextant. De son homosexualité, Guy Hockenheim avait donc, comme il le dit, construit une affirmation publique. Mai 68, révolte des mœurs par excellence, en a été l'occasion naturelle. Pourtant, cet éclatement de son engagement militant s'enracine dans une dissimulation originelle. J'avais l'impression depuis toujours que j'avais quelque chose à cacher à mes parents, ne serait-ce que le fait d'avoir un sexe, dit-il dans La dérive homosexuelle. De ce sexe qu'il cachait, de son désir le plus intime, il en a donc fait la publicité. Il l'a libéré, mais toujours sur le mode du refus, de la négation. Et là semble être la spécificité de la pensée de Guy Hockenheim, la libération qui réaffirme toujours un refus de ce qui l'entrave, bien sûr, comme des figures imposées de vie, mais surtout de catégories beaucoup plus larges, de concepts comme ceux de sujet ou d'identité. Et pour tout renverser, Guy Hockenheim fait appel au désir anonyme, homosexuel ou pas. C'est pourquoi aux révolutions qui ne font, je cite, que tourner sur elles-mêmes en se niant à la vitesse de leur rotation, il préférait les révoltes qui continuent à tout renverser aveuglément, comme sa lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, pamphlet qui s'attaquait à ses anciens compagnons opportunistes de mai 68. Il préférait donc ces révoltes du désir qui ne crient pas un manque, mais qui en disant non, en refusant, produisent un désir de désir.
Beau contre-pied à la pensée de Jacques Ellul qui lui donc favorise la révolution sur la révolte.
Exactement.
Alors dites-nous le titre du livre.
Tout simplement La Révolte, Guy Hockenheim, c'est paru aux éditions du Sextant et c'est par Cécile Voissé-Wesser.
Merci à vous Géraldine et merci à tous. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de ces révolutions. Après Jacques Ellul aujourd'hui, ce sera Aristophane. Demain, Aristophane, la révolte des femmes et des grenouilles. Mais oui, en compagnie de Pierre Judet de la Combe. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de vous permettre de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires.